Cédric Volé, CGT Santé Sud PACA. Vous avez co-organisé la mobilisation de ce jour. Quels sont les premiers retours?
Oui, du coup, c'est une bonne mobilisation, sachant qu'il y avait un gros parcours. On a vu qu'il y avait certains usagers personnels qui étaient venus devant l'hôpital. D'autres, ils viennent à l'arrivée, portent la sonnerie. D'autres ont eu la force de faire l'ensemble de la manifestation qui était très longue. C'était une première mobilisation qui était quand même très intéressante. Et avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Et on a senti surtout un ras-le-bol vraiment d'arrêter le carnage, en fait. Je pense que tout le monde en a marre de travailler dans ces conditions, tout le monde en a marre de plus avoir un accès aux soins normal, entre guillemets, sur Manosque. Et voilà, quand on veut faire soigner ses parents, ses enfants, voilà, on veut avoir des urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas envie d'aller jusqu'à Aix ou Pertuis ou Sisteron pour se faire soigner. Donc vraiment, il est temps que ça change. Je pense à la fois, il faut que la population et les personnels s'unissent et vraiment tous ensemble mettre un maximum de pression pour arriver à obtenir leurs revendications, l'ouverture d'un hôpital 24 heures sur 24, d'avoir les moyens de fonctionner en termes humains, en termes de salaire, en termes de financement.
Au niveau de la manifestation, c'était vu pour la préparation, l'annonce. Et entre-temps, il y a encore d'autres collectifs, structures qui vous ont rejoint.
Oui. Donc, il y a des syndicats supplémentaires qui nous ont reçus depuis deux semaines, là, qu'on s'était vus. La santé, c'est vraiment un sujet consensuel. C'est la première préoccupation des Français dans beaucoup de sondages. Et je pense que tout le monde, voilà, aujourd'hui, a envie d'avoir accès aux soins pour tous, pour tout le temps. On veut avoir un généraliste, on veut avoir des spécialistes. Et on veut avoir des urgences qui fonctionnent normalement. Parce que tous les jours, on est interpellé par la population qui nous dit « Je suis allé à Pertuis. Pertuis était saturé, on l'a refusé. Et après, je me suis retrouvé à des cas comme celui-là, on en entend tous les jours.
Hein. On voit que dans la manifestation, il y a des soignants, il y a des syndicats, il y a des partis politiques.
C'est ça, en fait, tout le monde est concerné. Et je pense que c'est tous ensemble que ça sortira, que ce soit élus, population, personnel. Et après, c'est pas nous, tout seuls dans notre coin, à Manosque, qu'on va s'en sortir. Donc ce qui était intéressant aussi à cette manifestation, c'est qu'il y avait des collègues de l'hôpital d'Expertuis qui étaient là et qui sont intervenus tout à l'heure devant l'hôpital et qu'on dit vraiment il faut qu'on réussisse à faire converger tout ça parce que des colères, il y en a partout. Il y en a à Draguignan, il y en a à Marseille, il y en a à Manosque, il y en a à Digne, il y en a à Sisteron sur différentes problématiques en termes de santé. Et il faut qu'on arrive à faire converger tout ça et qu'on arrive à créer un mouvement d'ensemble avec le slogan des luttes locales à l'offensive générale.
Les retombées, ça va être, c'est trop tôt pour le dire, mais...
À la suite de ça, donc on se reverra tous ensemble. En tout cas, toutes les forces qui ont organisé cette mobilisation pour essayer de voir les suites qu'on pourrait donner et pour prévoir un plan de travail pour les prochaines semaines. Ouais.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite?
D'arriver à faire converger, coaguler ces mécontentements et à créer une force puissante pour aller porter nos revendications jusqu'au ministère. Ça serait super si on arrivait à faire un mouvement d'ensemble national, tous ensemble devant le ministère pour porter nos revendications.
Vous avez rejoint aujourd'hui la manifestation Convergence Santé Sud. Vous travaillez à l'hôpital de Manosque et vous êtes à la CGT. Quels sont vos premiers ressentis?
Alors moi, c'est Nadège, je suis préparatrice en pharmacie à l'hôpital de Manosque. Écoutez, on est très contents de cette journée de mobilisation. On a beaucoup travaillé pour que ce soit un succès. Le syndicat CGT a été très mobilisé pour que ce soit une réussite et pour que tous ensemble, nous exprimions notre colère pour dire qu'on n'est pas des sous-citoyens et qu'on veut un accès aux soins comme tout le monde.
Et vous manifestez aujourd'hui en tant que professionnel ou en tant qu'usagère, ou les deux?
La casquette est double, hein, parce qu'effectivement, moi, l'hôpital, c'est mon outil de travail, donc je le défends pour qu'il reste actif. Et aussi parce que je suis citoyenne, j'ai les parents, des grands-parents, des enfants, et je veux qu'on puisse avoir un accès aux urgences à moins de 30 minutes du domicile.
Vous, dans votre travail, vous rencontrez des difficultés
Oui, tout à fait. Hein, en tant qu'agent de l'hôpital, quand on remarque une baisse d'activité du service des urgences, on a une baisse d'activité dans les services de l'hôpital. Et avec la T2A, la tarification à l'activité, depuis 2009, depuis la loi Bachelot, eh bien, qui dit tarification à l'activité, moins d'activité, moins de recettes pour l'hôpital. Et on craint un retour à l'équilibre avec des suppressions de postes et on a peur pour nos emplois, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous espérez?
En fait, au niveau local, on n'attend pas grand-chose, mais ce qu'on attend, c'est surtout au niveau national. On veut que les pouvoirs publics, que le gouvernement prenne des décisions rapides pour que des médecins puissent être dans les hôpitaux, des médecins pour les urgences, pour qu'ils soient ouverts comme ça doit être fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour avoir une activité digne de ce don pour le bassin manosquin. Quand tout sera privé, on sera privé de tout.
Jean-Paul Doblin. Je suis adjoint dans la commune de Ginaservi, dans le Haut-Var.
Christine Bouteillé, adjointe à la commune de Ginaservi.
Et donc vous décidez aujourd'hui de manifester avec vos écharpes tricolores en tant qu'élu. Ça veut dire que vous trouvez que l'hôpital public aujourd'hui est en crise. Pourquoi vous avez rejoint cette manifestation aujourd'hui ?
Pour nous, élus ruraux, on assiste à la lente dégradation du système de santé en général. Et une des manifestations de cette dégradation, c'est l'hôpital de Manosque, dont le service des urgences ferme de plus en plus souvent. Nous, on touche vraiment directement cette réalité-là parce que ça veut dire que les gens qui sont évacués sur le service des urgences, au lieu d'avoir une demi-heure de délai quand ils sont évacués par les pompiers, par exemple, ce qui est déjà un délai très important, bah aujourd'hui, il leur faut une heure pour être évacués sur un centre hospitalier le plus proche.
Aix, j'imagine.
Aix ou Brignoles. Et ça veut dire des risques beaucoup plus importants pour la santé des gens qui, bien évidemment, sont en général en situation déjà de détresse médicale.
Mais ce mouvement grossit, il est transpartisan, transdépartement, c'est quand même assez impressionnant.
Oui, c'est là qu'on voit que la vraie politique, au sens étymologique du terme, c'est s'occuper des affaires de la commune et des territoires. Et là-dessus, bien évidemment, que ce soit les partis, que ce soit les syndicats ou que ce soit les élus, on se retrouve tous. Il n'y a aucun problème d'être partisan, d'être dans tel ou tel parti ou tel ou tel syndicat. On se retrouve tous. Le problème de l'hôpital de Manosque, c'est véritablement un problème qui se pose à nous tous.
Tout le monde est d'accord, qu'est-ce qui bloque ?
Nos dirigeants au niveau
national,
voilà, qui ont une approche financière, strictement financière. Donc il faut faire des économies. Je leur conseille, je pense qu'il faudrait qu'ils ferment non seulement les hôpitaux, mais il faudrait aussi fermer les écoles, parce que les écoles, ça coûte très cher. Et puis il faudrait arrêter de faire des routes. Enfin, il faut ne plus favoriser que les choses qui rapportent de l'argent.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une politique financière. Et nous, on est plutôt dans la ruralité, avec des problèmes qu'on touche du doigt tous les jours, et notamment le manque de soins.
Et vous pensez que les problèmes de ruralité ne sont pas pris en compte ? Parce que les dirigeants en ville, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi on oublie la ruralité aujourd'hui dans les politiques ?
Déjà, il faudrait que les responsables sortent un petit peu de leur cocon. Là, on additionne des problèmes de ruralité et avec des problèmes de santé. Donc ça s'ajoute, ça se multiplie l'un par l'autre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a à la fois un système de santé qui est complètement en péril à l'heure actuelle et un problème que la ruralité n'est absolument pas prise en compte. On raisonne le parisianisme, c'est quelque chose qui existe encore, quoi. Alors effectivement, on va avoir des mouvements pour aller sur Marseille ou Lyon ou Bordeaux. Mais nous, on se sent effectivement totalement délaissés. On ne va peut-être pas parler de problèmes très compliqués, mais ce qu'on appelle la ZRR à l'heure actuelle, c'est bien significatif qu'il n'y a aucune prise en compte de la réalité de notre situation actuelle.
Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette mobilisation qui donc a eu un fort succès, quelle retombée ?
On aimerait bien être un peu attendu, justement, qu'on considère notre territoire comme ayant besoin de toute cette qualité de soins. Il faut qu'on ait la même qualité de soins pour nous, communes rurales, que pour les grandes villes où il y a des centres universitaires plus proches.
C'est quand même impressionnant d'avoir au moins une vingtaine de forces se réunir devant un communiqué commun.
Ce n'est pas nous qui sommes à la base de l'organisation de cette journée, hein, pas du tout. Nous, on est là en soutien. Et bien évident que si on nous demande d'aller un petit peu plus loin, de faire plus de choses, on le fera. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment un problème extrêmement important. Il faudra probablement faire d'autres manifestations de ce type. Et on a quand même l'espoir que ça finisse par être entendu.
Mais en tant qu'élu tout court, aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous avez des leviers ou vous sentez complètement bloqué ?
On nous enlève de plus en plus de leviers, c'est évident. C'est évident qu'on a de moins en moins de moyens d'action et qu'on a véritablement l'impression que les décisions sont prises de plus en plus haut et de façon de plus en plus obscure et par des gens qui prennent de moins en moins compte de la réalité du terrain.
Je suis allé à la rencontre de tous les gens qui travaillent au tribunal de Digne et je peux vous dire que le diagnostic n'est pas forcément très brillant non plus du côté de notre justice et que les manques des services publics, ce n'est pas que dans la santé que ça se joue, bien loin de là. Juste dire que d'abord, ce n'est pas une situation isolée. la situation des urgences de Manosque. Malheureusement, il y a énormément d'hôpitaux autour de nous qui vivent le même type de situation. Je voudrais pour cela souligner, avoir une pensée également pour les équipes soignantes. Parce qu'en septembre l'année dernière, on a passé 8 heures avec mon équipe à l'hôpital de Manosque. On a rencontré les travailleurs de tous les services, y compris des services techniques. Et on a ressenti une grande souffrance. Je me rappelle en particulier, à la fin de la journée, on a rencontré une aide-soignante et un infirmier qui nous ont raconté une soirée de fermeture des urgences de Manosque où ils étaient devant l'hôpital. Arrive une voiture avec une jeune femme blessée à l'intérieur. Et la seule chose que ces deux soignants qui se sont engagés dans leur vie professionnelle pour soigner, pour porter secours aux populations, la seule chose qu'ils ont pu faire tous les deux, c'est sortir leur téléphone portable et appeler les pompiers qui sont venus chercher cette jeune femme pour l'emmener à l'hôpital de Pertuis. Il se trouve que ensuite, à l'hôpital de Pertuis, il n'y avait pas les moyens de l'accueillir en post-urgence et que donc elle a été ramenée à l'hôpital de Manosque, puisque l'hôpital de Manosque, rappelons-le, était ouvert, lui, et pouvait fonctionner. Donc on touche bien là du doigt à la fois l'absurdité absolue de la situation dans laquelle on est, et je parlais de la détresse des soignants, ces deux personnes nous ont dit très clairement qu'elles s'étaient senties ce soir-là totalement impuissantes, ce qui est profondément insupportable pour l'ensemble des équipes de soignants. Donc je voudrais avoir une pensée pour eux ce soir. Dire que cette souffrance, elle est partout dans notre département. Je ne sais pas s'il a été évoqué la situation de l'EHPAD de Bannon, par exemple, sur lequel on se bat également. Cette souffrance, elle est partagée un peu partout sur le territoire par des soignants qui ne trouvent plus de sens à leur métier, puisqu'on les oblige à tenir des cadences infernales, à ne plus apporter de soins comme ils l'entendent, mais bien une logique de machine qui tourne sans les moyens pour tourner réellement. Jean-François a parlé de l'action parlementaire. Alors, ça ne vous aura pas échappé que l'action parlementaire, ces derniers temps, est assez empêchée, dirons-nous, pour utiliser une litote. C'est-à-dire que des solutions, contrairement à ce que nous dit Catherine Vautrin, ministre de la Santé, contrairement à ce que nous dit son ministre délégué Valtou, il en existe, et il en existe de nombreuses. Or, elles sont déjà portées aujourd'hui par des propositions de loi, qu'elles viennent du Sénat ou qu'elles viennent de l'Assemblée. Je pense en particulier à une proposition transpartisane qui est portée y compris par des députés de la majorité sur les déserts médicaux et qui devrait normalement être inscrite en urgence au calendrier de l'hémicycle. Et bien, étrangement, elle n'est pas inscrite au calendrier de l'hémicycle. Je pense par exemple à cet amendement voté l'été dernier en pleine chaleur dans l'hémicycle, voté majoritairement par l'Assemblée, pour abonder les fonds de l'hôpital public de 19 milliards d'euros. On ne parle pas d'une paille, hein, on parle de 19 milliards d'euros. C'est un amendement qui avait été adopté. Cet amendement est repassé en seconde lecture le lendemain, sans même être passé par le Sénat. C'est une des ruses parlementaires qu'autorise la Constitution de la Ve République et a été cette fois-ci battu, puisque les macronistes avaient battu le rappel pour être très nombreux dans l'hémicycle. Je pense à une proposition de loi qui est portée par Damien Maudet, un collègue de mon groupe parlementaire, sur la réorganisation des études de médecine. Parce qu'on nous répète toujours, nous, quand on porte des demandes ou des propositions à l'Assemblée, c'est « mais il faut 10 ans pour former un médecin ». Donc on ne peut pas répondre comme ça immédiatement. Le problème, c'est qu'ils ne font rien pour que dans 10 ans, on ait effectivement suffisamment de médecins formés. Jean-François a parlé du numerus clausus. On nous dit le numerus clausus est terminé. C'est le numerus apertus maintenant, c'est un joli nom latin. Le souci, c'est que si on ne donne pas les moyens aux universités de médecine de former plus de médecins, plus de soignants, ben en fait, faire sauter le numerus clausus, ça ne permet pas d'avoir plus de médecins à la fin. Il y a une proposition de loi qui porte également là-dessus. Il y a des amendements portés par un certain nombre de députés, en particulier bien sûr des groupes de la NUPES, à chaque projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour augmenter les moyens des universités, etc. Je suis en train de travailler avec mon équipe sur une proposition de loi sur la filière de formation des urgentistes. Donc ne nous mentons pas, nous avons en face de nous un gouvernement qui ne souhaite pas trouver de solution. Affaire à un gouvernement dont le but est clairement de mettre en difficulté l'école publique, de mettre en difficulté l'hôpital public, de mettre en difficulté la totalité des services publics, pour pouvoir dire ensuite, bah regardez, ça ne fonctionne pas, et pour pouvoir marchandiser ces secteurs qui échappent pour le moment au secteur marchand. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour vous désespérer, bien loin de là, c'est pour vous dire que ces solutions, elles existent, mais que par contre, il ne faut pas croire, il ne faut pas attendre de notre gouvernement qu'il nous autorise à les mettre en place. Il faut les gagner, ces solutions-là. Donc je voudrais ce soir remercier d'abord la Convergence d'avoir initié cette manifestation et ce rassemblement, remercier les syndicats qui ont répondu présents, les partis politiques qui ont répondu présents, parce que la seule solution, on ne peut pas les convaincre. Nous ne sommes pas dans la même logique. On ne peut pas les convaincre, la seule chose qu'on puisse faire, c'est les vaincre. Et pour les vaincre, il faut que nous puissions imposer les propositions que nous portons. Et pour ça, des mobilisations comme ce soir sont absolument nécessaires pour soutenir le combat que nous-mêmes nous partons au Parlement. Ne désespérons pas. Moi, je suis très heureux de vous retrouver ce soir et de me rendre compte qu'il y a du monde qui se mobilise pour l'hôpital public, pour la santé publique. Nous pouvons regagner un vrai service de santé dans ce pays et nous allons le faire tous ensemble. Je vous remercie.
Aussi étranger quand on me parle de nous.